49. Le soir, après souper, nous fîmes une promenade beaucoup plus calme que celle du jour, Anne, Yves et moi. Et à 9 heures, nous étions assis au bord d'un grand chemin qui traversait les bois. Ce n'était pas encore la nuit, tant sont longues en Bretagne les soirées du beau mois de juin. Mais nous commencions tout de même à causer des fantômes et des morts. Anne disait « L'hiver, quand les loups viennent, nous les entendons de chez nous. Mais quelquefois les revenants aussi, monsieur, se mettent à crier comme eux. » Ce soir-là, on entendait seulement passer les hannetons et les cerfs-volants qui traversaient l'air tiède en décrivant des courbes avec de petits bourdonnements d'été. Et puis, dans le lointain du bois, ouh, ouh, un appel triste chanté tout doucement d'une voix de hibou. Et Yves disait « Écoutez, frère, les perruches de France qui chantent. » C'était un souvenir de sa perruche de la Sibylle. Les graminées légères avec leurs fleurs de poussière grise étendaient sur la terre une couche très haute, à peine palpable, où l'on enfonçait, et les dernières phalènes, qui avaient fini de courir, plongeaient les unes après les autres dans ces épaisseurs d'herbe pour prendre leur poste de sommeil le long des tiges. Et l'obscurité venait, lente et calme, avec un air de mystère. Passa un jeune gars breton qui portait un bissac sur l'épaule et s'en revenait gris du pardon de l'anil du, la plume de paon au chapeau. Je ne sais pas bien ce que vient faire ceci dans l'histoire d'Yves. Je raconte au hasard des choses qui sont restées dans ma mémoire. Il s'arrêta pour nous faire un discours, après quoi, en manière de péroraison, et montrant son bissac, « Tenez, dit-il, j'ai 2 chats là-dedans. » Cela n'avait aucun rapport avec ce qu'il venait de nous dire. Il posa son fardeau par terre et jeta son grand chapeau dessus. Alors ce bissac se mit à jurer, avec de grosses voix de matou en colère, et à circuler par soubresauts sur le chemin. Quand nous fûmes bien convaincus que c'était des chats, il remit le tout sur son épaule, salua et continua sa route. 50. 17 juin 1878. De bonne heure, nous sommes debout pour aller dans les bois ramasser des luzes, petits fruits d'un noir bleu que l'on trouve dans les plus épais fourrés sur des plantes qui ressemblent aux gui de chêne. Anne ne portait plus son beau costume de fête. Elle avait mis une grande collerette unie et une coiffe plus simple. Sa robe bretonne en drap bleu était ornée de broderies jaunes. Sur chaque côté de son corsage, c'étaient des dessins imitant de ses rangées d'yeux comme ont les papillons sur leurs ailes. Le long des sentiers creux, dans la nuit verte, nous rencontrions des femmes qui allaient à Toulven entendre la première messe du matin. Du fond de ces longs couloirs de verdure, on les voyait venir avec leurs collerettes, avec leurs hautes coiffes blanches, dont les pans retombaient symétriques sur leurs oreilles, comme des bonnets d'Égyptiens. Leur taille était très serrée dans des doubles corsages de drap bleu qui ressemblaient à des corselets d'insectes et sur lesquels étaient brodées toujours les mêmes bigarrures, les mêmes rangées d'yeux de papillons. Au passage, elles nous disaient bonjour en langue bretonne et leurs figures tranquilles avaient des expressions primitives. Et puis, sur les portes des chaumières antiques en granit gris qui étaient enfouies dans les arbres, nous trouvions des vieilles assises et gardant des petits-enfants, des vieilles aux longs cheveux blancs dépeignés, aux haillons de drap bleu coupés à la mode d'autrefois, avec des restes de broderies bretonnes et de rangées d'yeux, la misère et la sauvagerie du vieux temps. Des fougères tout le long de ces chemins, les espèces les plus découpées, les plus fines, les plus rares, agrandies là dans l'ombre humide, formant des gerbes et des tapis, et puis les digitales pourprées s'élançant comme des fusées roses, et plus roses encore que les digitales, les silènes de Bretagne, semant sur toute cette verdure fraîche leurs petites étoiles d'une couleur de carmin. À nous, peut-être, la verdure semble plus verte, les bois plus silencieux, les senteurs plus pénétrantes, à nous qui habitons les maisons de planches au milieu du bruit de la mer. « Moi, je trouve qu'on est très bien ici, » disait Yves. Un peu plus tard, quand le petit Pierre sera seulement assez grand pour que je l'emmène par la main, nous en irons tous deux ramasser toutes sortes de choses dans les bois, et puis chasser. C'est cela, j'achèterai un fusil dès que je serai un peu riche pour tuer des loups. Il me semble à moi que je ne m'ennuierai jamais dans ce pays. » Je savais bien, hélas, qu'il s'y ennuierait à la longue. Mais c'était inutile de le lui dire, et il fallait bien lui laisser sa joie, comme aux enfants. D'ailleurs, lui aussi allait partir. 2 jours après moi, il devait rejoindre Brest pour s'embarquer de nouveau. Ce n'était qu'un tout petit repos dans notre vie, ce séjour en Toulven, qu'un petit entracte de Bretagne, après lequel notre métier de mer nous attendait. Nous fûmes bientôt au milieu des bois. Plus de sentiers ni de chaumières, rien que des collines se succédant au loin, couvertes de hêtres, de broussailles, de chênes et de bruyères. Et des fleurs, une profusion de fleurs. Tout ce pays était fleuri comme un Éden. Des chèvrefeuilles, de grands asphodèles en quenouilles blanches et des digitales en quenouilles roses. Dans le lointain, le chant des coucous dans les arbres et autour de nous, des bruits d'abeilles. Les luses croissaient çà et là sur le sol pierreux, mêlés aux bruyères fleuries. Anne trouvait toujours les plus belles et m'en donnait à pleine main. Et le grand Yves nous regardait faire avec un sourire très grave, ayant conscience de jouer pour la première fois une espèce de rôle de mentor et s'en trouvant très surpris. Le lieu était sauvage. Ses collines boisées, ses tapis de lichen, cela ressemblait à des paysages des temps passés, tout en ne portant la marque d'aucune époque précise. Mais le costume d'Anne était du plein Moyen-Âge, et alors on avait l'impression de cette période-là. Non pas le Moyen-Âge sombre et crépusculaire, compris par Gustave Doré, mais le Moyen-Âge au soleil est plein de fleurs, de ces mêmes éternelles fleurs des champs de la Gaule qui s'épanouissaient aussi pour nos ancêtres. 11 heures quand nous revînmes à la chaumière des vieux Kéréménen pour dîner. Il faisait très chaud cet été-là en Bretagne. Toutes ces fougères, toutes ces fleurettes roses des chemins se courbaient sous ce soleil inusité qui les fatiguait même à travers les branchages verts. 1 heure. Pour moi, temps de partir. J'allais embrasser d'abord Petit Pierre, qui dormait toujours dans sa corbeille de chêne antique, comme si ces 4 jours ne lui avaient pas suffi pour se remettre de toute la fatigue qu'il avait prise pour venir au monde. Je fis mes adieux à tous. Yves, pensif, debout contre la porte, m'attendait pour m'accompagner jusqu'à Toulven, où la diligence devait me prendre et me mener à la station de Banalec. Anne et le vieux Corentin voulurent aussi me reconduire. Et quand je vis s'éloigner Toulven, le clocher gris et l'étang triste, mon cœur se serra. Dans combien d'années reviendrai-je en Bretagne? Encore une fois nous étions séparés, mon frère et moi, et tous deux nous nous en allions à l'inconnu. Je m'inquiétais de son avenir, sur lequel je voyais peser des nuages très sombres. Et puis je songeais aussi à ces Kéréménen dont l'accueil m'avait touché. Je me demandais si mon pauvre cher Yves, avec ses défauts terribles et son caractère indomptable, n'allait pas leur apporter malheur sous leur toit de chaume couvert de petites fleurs roses. 51 novembre 1880. Un peu plus de 2 ans après. Petit Pierre avait froid. Il pleurait en se tenant ses 2 petites mains, qu'il essayait de cacher sous son tablier. Il était dans une rue de Brest, avant jour, un matin de novembre, sous la pluie fine. Il se serrait contre sa mère, qui, elle aussi, pleurait. Elle était là, à ce coin de rue, Marie Kermadec, attendant, rôdant dans l'obscurité comme une mauvaise femme. Yves rentrerait-il? Où était-il? Où avait-il passé la nuit? Dans quelle bouge? Retournerait-il au moins à son bord, à l'heure du coup de canon, à temps pour l'appel? D'autres femmes attendaient aussi. Une passa avec son mari un quartier-maître comme Yves. Il sortait ivre d'un cabaret qu'on venait d'ouvrir. Il essaya de marcher, fit quelques pas, puis tomba lourdement à terre avec un bruit lugubre de sa tête contre le granit dur. « Ah, mon Dieu !» pleurait la femme. « Jésus, Sainte Vierge Marie, ayez pitié de nous. Jamais je ne l'avais vu comme ça encore. » Marie Kermadec l'aida à le remettre debout. Il avait une jolie figure douce et sérieuse. « Merci, madame. » Et la femme continua de le faire marcher, en le soutenant de toutes ses forces. Petit Pierre pleurait doucement, comme comprenant déjà qu'une honte pesait sur eux et qu'il ne fallait pas faire de bruit, baissant sa petite tête et cachant toujours sous son tablier ses pauvres petites mains qui avaient froid. Il était assez bien couvert pourtant, mais il y avait longtemps qu'il était là, tranquille, à ce coin de rue humide. Les lanternes à gaz venaient de s'éteindre et il faisait très noir. Pauvre petite plante saine et fraîche, née dans les bois de Toulven, comment était-il venu s'échouer dans cette misère de la ville? Il ne s'expliquait pas bien ce changement, lui. Il ne pouvait pas bien comprendre encore pourquoi sa mère avait voulu suivre son mari dans ce Brest et habiter un logis sombre et froid au fond d'une cour dans une des rues basses avoisinant le port. Un autre passa. Il battait sa femme, celui-ci. Il ne voulait pas se laisser ramener et c'était horrible. Marie poussa un cri en entendant le bruit creux d'un coup de poing frappé dans une poitrine. Et puis elle se cacha la figure, n'y pouvant rien. Non, Yves n'en était jamais arrivé là, lui. Mais est-ce que cela viendrait? Est-ce qu'il faudrait aussi, un de ces jours, descendre jusqu'à cette dernière misère? 52. Yves à la fin parut, marchant droit, cambré, la tête haute, mais l'œil atone, égaré. Il vit sa femme, mais passa sans en avoir l'air, lui jetant un mauvais regard trouble. Ce n'était plus lui, comme il le disait lui-même après, dans les bons moments de repentir qu'il avait encore. Ce n'était plus lui, en effet, c'était la bête sauvage que l'ivresse réveillait quand sa vraie âme était obscurcie et disparue. Marie se garda de dire un mot, non seulement de faire un reproche, mais même de supplier. Il ne fallait rien dire à Yves dans ces moments où sa tête était perdue. Il serait reparti encore. Elle savait cela, elle était pliée à ce silence. Elle suivit, tête basse, sous la pluie, traînant par la main petit Pierre, qui tâchait de pleurer encore plus doucement depuis qu'il avait vu son père et qui mouillait ses pauvres petits pieds dans la boue du ruisseau. Comment avait-elle pu le laisser marcher ainsi et même le faire sortir comme cela avant jour? À quoi pensait-elle donc? Où avait-elle la tête? Et elle le prit à son cou, le réchauffant contre elle, l'embrassant avec amour. Yves fit mine de passer devant sa porte pour voir, face ici de brute, puis regarda derrière lui sa femme avec un sourire stupide qui faisait mal, comme pour dire « C'était une plaisanterie que je te faisais, mais tu vois, je vais rentrer. » Elle le suivit de loin, se dissimulant le long des murs de l'escalier noir, se faisant petite, humble. Heureusement, il n'était pas jour encore, et sans doute les voisins ne seraient pas levés pour être témoins de cette honte. Elle entra après lui dans leur chambre et ferma la porte. Pas de feu, un air de misère qui prenait au cœur. La chandelle allumée, Marie vit qu'Yves avait encore tout déchiré ses vêtements neufs, qu'elle avait une première fois raccommodé avec tant de soin. Et puis son grand col bleu était froissé et maculé, et son tricot à raies, les mailles rompues, bâillaient sur sa poitrine. Il allait et venait, tournant comme une bête enfermée, dérangeant, chavirant brusquement les choses qu'elle avait rangées, les morceaux de pain qu'elle avait économisés. Elle, ayant recouché leur enfant dans son berceau et l'ayant bien couvert, faisait semblant de s'occuper des choses de leur ménage. Il fallait avoir un air naturel dans ces cas-là. Autrement, si on semblait trop s'occuper de lui, il s'exaspérait tout à coup comme un fauve qui a senti du sang. Et il voulait repartir. Et quand une fois il avait dit « Je m'en vais retrouver mes camarades », il s'en allait avec un entêtement de brute. Il n'y avait plus ni force, ni prière, ni larmes capables de le retenir. 53. Quelquefois, Yves tombait tout à coup comme un mort et dormait plusieurs heures. Puis c'était fini. Cela dépendait de l'espèce d'alcool qu'il avait pris. D'autres fois, il tenait bon, on ne sait comment, et s'en retournait sur son navire, dans le port, à la réserve, faire son service. Ce matin-là, quand il fut 7 heures, Yves, un peu dégrisé, ayant eu l'idée de lui-même de tremper sa tête dans l'eau glacée, sortit et prit le chemin de l'arsenal. 54. Alors Marie s'assit, brisée, anéantie, auprès du petit berceau où leur fils venait de se rendormir. Par les fenêtres sans rideaux, une lueur blanche commençait à entrer, une lueur pâle, pâle qui donnait froid. Encore un jour. Dans la rue, on entendait ce bruit caractéristique des bas quartiers de Brest, aux heures d'embauchée, des milliers de sabots de bois martelant les pavés de granit dur. Les ouvriers rentraient dans le port de guerre, s'arrêtant en chemin pour boire encore de l'eau-de-vie, dans des cabarets à peine ouverts qui mêlaient au jour naissant les lueurs sales de leurs petites lampes. Marie restait là, immobile, percevant avec une espèce d'acuité douloureuse tous ces bruits déjà familiers des matins d'hiver qui montaient de la rue, voix noyées d'alcool et grouillements de sabots. C'était dans une de ces vieilles maisons hautes d'étage, profondes, immenses, avec des cours noires, des murs de granit brut, épais comme des remparts, renfermant toutes sortes de monde, ouvriers, vétérans, marins. Au moins 30 ménages d'ivrognes. Il y avait 4 mois, depuis qu'Yves était revenu des Antilles, elle avait quitté Toulven pour venir habiter là. Une clarté plus blanche, entrée par les vitres, tombait sur ces murs délabrés et sordides. Pénétrait peu à peu toute cette grande chambre, où leur modeste petit ménage aujourd'hui en désordre semblait perdu. Décidément, c'était le jour. Elle alla par économie souffler sa chandelle et puis revint s'asseoir. Qu'allait-elle faire de sa journée? Travaillerait-elle aujourd'hui? Non, elle n'en avait pas le courage. Et puis, à quoi bon? Encore un jour qu'il faudrait passer sans feu, avec la mort dans le cœur, à regarder tomber la pluie et à attendre. Attendre, attendre avec une anxiété qui croîtrait d'heure en heure, attendre la tombée de la nuit, le moment où le martèlement des sabots recommencerait en bas dans la rue grise, la débauchée. Car Yves et les autres marins, dont les navires étaient dans le port, sortaient en même temps que les ouvriers de l'arsenal, et alors elle, chaque soir, appuyée à sa fenêtre, regardait passer ce flot d'hommes, les yeux inquiets, fouillant le plus loin possible dans tous ces groupes, cherchant celui qui lui avait pris sa vie. Elle le reconnaissait de loin, à sa haute taille droite, à sa carrure. Son col bleu dominait les autres. Quand elle l'avait découvert, marchant vite, se hâtant vers le logis, il lui semblait que son pauvre cœur se desserrait, qu'elle respirait mieux. Quand elle l'avait vu enfin au-dessous d'elle, entrer par la vieille porte basse, elle était presque heureuse. Il arrivait, et quand il était là, et qu'il les avait embrassés tous les deux, elle et le petit Pierre, le danger était fini, il ne ressortait plus. Mais, s'il tardait à paraître, peu à peu elle sentait l'angoisse l'étreindre. Et quand l'heure était passée, la nuit venue, la foule des hommes dispersée, et que lui n'était pas rentré, oh, alors commençaient ces soirées sinistres qu'elle connaissait si bien, ces soirées mortelles d'attente, qu'elle passait la porte ouverte, assise dans une chaise, les mains jointes, à dire des prières, l'oreille tendue à tous les chants des matelots qui venaient du dehors, tremblante à tous les bruits de pas qu'elle entendait dans l'escalier noir. Et puis très tard, quand les autres, les voisines étaient couchées et ne pouvaient plus la voir, elle descendait. Sous le froid, sous la pluie, elle s'en allait comme une insensée attendre au coin des rues, écouter aux portes des bouges où l'on buvait encore, coller sa joue pâlie aux vitres des cabarets.